Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Didier Astorga, donc, je suis pasteur aumônier à l'hôpital Cochin à Paris, Paris 14e. Cochin, Tête-Dieu, Bourgard, Port-Royal, la Collégiale. Voilà. Et donc, si vous connaissez des gens qui sont hospitalisés, nous avons dans les hôpitaux de l'assistance publique des aumôniers, des pasteurs, dont c'est leur spécialité, c'est d'accompagner ceux qui sont malades, c'est-à-dire qui sont chrétiens, qui sont malades. Et donc, nous sommes là pour cela. C'est notre ministère que Dieu m'a confié, ça fait une dizaine d'années. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à demander au personnel soignant les coordonnées de l'aumônier, ça fait partie des droits des patients. Voilà. Donc, je suis marié, j'ai un fils de 18 ans, et ma femme, je dirais pas son âge, voilà. Dernièrement, ils m'ont fait la joie de fêter mes 50 ans, je vais faire une surprise, et voilà. Ça fait déjà quand même un an sont passés, mais ça m'est resté. Très bien, c'est toujours une fois pour moi d'être avec vous quand je suis sollicité par Nicolas, et ça me permet de revoir aussi quelques amis, et malheureusement je devrais partir rapidement après le culte. Alors, je vais avant tout peut-être prier que Dieu nous guide ce matin. Seigneur, merci parce que tu fais bien tout ce que tu fais. Merci parce que tu sais combien nous avons soif de toi, combien nous avons besoin de te connaître davantage. Et Père, nous te prions ensemble que tu nous parles, que tu nous encourages. Tu connais nos combats, nos luttes, nos labeurs, nos échecs. Mais tu es le Père compatissant, l'un à la colère, riche en bonté, qui nous tend toujours. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes ce matin. Et nous voulons être à ton écoute. Et que ce ne soit pas Didier qui puisse parler, mais que ce soit vraiment toi, car tu sais comment parler au cœur de chacun. Nous te louons, nous t'adorons. Bénissons ton nom, Saint, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour commencer, je vais peut-être vous proposer un petit jeu. Ça va nous détendre un peu et il y a un prix à gagner. Alors, ça s'inspire de questions pour un champion, pour une championne. Alors, je suis, donc vous devez trouver de qui il s'agit. Je suis un homme de la tribu de Lévi, ayant vécu à la fin de la période des juges. J'ai dirigé Israël pendant 40 ans. À cette époque, la religiosité avait pris la place d'une consécration véritable et la parole de l'Éternel se faisait rare. Quand vous avez la personne que vous maritez, bien sûr. Jusqu'au jour où Dieu plaça à mes côtés le fils que j'aurais aimé avoir. Un jeune garçon qui... Non. Un jeune garçon qui, dès son enfance... Otniel. Qui, dès son enfance, ne laissait tomber par terre aucune de ses paroles. Élie. Oui. Élie. Alors, je ne sais pas si tu seras content de mon cadeau, c'est un calendrier, il me restait, je ne sais pas si tu en as. Il reste quand même les six derniers mois de l'année. Je ne sais pas ça, pas un bisou. Vous allez parler, oui c'est Élie, hein, vous allez parler de moi. Sachez que je ne suis pas fier de la façon dont j'ai élevé mes fils. Je n'ai pas été un bon exemple. Tant mieux. Tant mieux si vous pouvez apprendre de mes erreurs. Le châtiment de l'Éternel fut terrible. J'avais déjà perdu la vue, mais le même jour, je perdis mes deux fils et ma vie. J'avais alors 98 ans. Mon histoire se trouve au début du livre de Samuel. Je suis Élie. Bravo, mon frère. Je suis Élie. Quand je suis arrivé ici, je confesse quelque chose, c'est que je ne savais pas de quoi vous parler. J'avais ma dernière prédication que j'ai fait à l'église, dans mon église, dans l'église où je vais, et j'en avais deux. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants aujourd'hui? Et c'est alors que Enoch a parlé du texte, de la lecture que j'avais, et j'ai dit, ben, voilà, j'ai plus besoin de signes. Et on va ouvrir la Bible, si vous voulez bien, dans 1 Samuel chapitre 4. C'est chapitre 4. Voilà, 1 Samuel chapitre 4. Et on va faire lecture. Donc, juste pour vous rappeler le contexte, hein, Israël avait pris possession de la terre promise depuis quelques décennies. Seulement, il devait chasser, voire exterminer les Cananéens. Et ça peut-être nous choquer aujourd'hui, mais c'était vraiment un jugement divin. Et aussi, c'était une pratique courante dans le Proche-Orient ancien où les plus faibles étaient mangés par les plus forts. Et c'était comme ça. La conquête inachevée a entraîné le peuple à se conformer, à adopter le culte idolâtre des Cananéens. 1 Samuel chapitre 4. Ça va, tout le monde a trouvé? 1 Samuel chapitre 4, je ne peux pas encore trouver. Voilà, donc juste pour mettre encore un peu de lumière sur le contexte, hein, Dieu, qui ne supporte pas des rivales, va châtier son peuple. Les asservir par des ennemis qui les oppriment, qui va les opprimer. Cependant, Dieu enverra dans sa compassion des libérateurs, il enverra des juges. Et durant toute la période des juges, il y aura ce cycle, infidélité du peuple, châtiment du Seigneur, délivrance, infidélité, châtiment, délivrance, infidélité, etc. Et Élie, dont on parlera, sera pendant 40 ans un de ses juges, doublé de la casquette de grand prêtre. Le problème, c'est qu'il était âgé de 58 ans à la paix de ses fonctions. On ne connaît pas trop la première partie de sa vie, mais il y a des faits qui nous font penser qu'il a peut-être hérité. C'était lui qui était là, puis il a hérité de ce travail, de ce job de grand prêtre. C'était lui, c'est par succession, il était de la tribu, il descendait de la tribu directe à Aaron, et puis voilà, on lui a donné le job. 1 Samuel, chapitre 4, on va faire lecture. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins. Pour combattre, ils campèrent près d'Eben Ezer, et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance, de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp,
Tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu et des Philistins et dirent : que signifient ces grands cris qui retentissent dans le corps des Hébreux ?
Et ils apprirent que l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp.
Malheur à nous, dirent-ils. Car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert.
C'était leur façon de parler, hein. On sait que c'est Dieu, l'Éternel des armées.
Fortifiez-vous, disent-ils, et soyez des hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez.
Donc, ils s'encouragent. Les Philistins, verset 10, livrèrent bataille. Et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et dit : que signifie ce tumulte ? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et il ne pouvait plus voir. Lorsque l'homme dit à Élie : j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit : que s'est-il passé, mon fils ? Que s'est-il passé ?
Celui qui portait la nouvelle dit en réponse : Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même les deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de l'Alliance a été prise.
À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Je n'avais pas remarqué qu'en fait, il tombe quand on fait mention de l'arche de Dieu. L'arche de l'Alliance, ce n'est pas de ses fils qui sont morts. C'était un homme vieux. Alors, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent : ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Icarote, en disant : la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Icarote, plus de gloire. C'est le titre que j'ai trouvé. Et ce matin, nous avons beaucoup fait mention de cette gloire de Dieu, hein. Le Seigneur par le psaume 47, il nous dit : battez les mains et poussez des cris de joie. et chanter, chanter à Dieu. Et parfois, on se demande pourquoi vous, les protestants, vous avez tendance à tout le temps chanter, chanter.
Ben oui,
vous avez raison de chanter. Chantez à Dieu, chantez-lui un cantique nouveau, car Dieu est le roi de toute la terre. Et voilà, il y a une sœur qui a chanté « Je ne veux que ta gloire, Seigneur. Ne vivre que pour toi et que ne vivre que pour toi et que par toi. Et de rechanter que c'est auprès de Dieu que je veux te vivre. Je viens devant le trône. Je viens dans ta présence. Et ça, c'est la vie du chrétien. Et je viens dans ta présence devant le trône, non pas seulement le dimanche matin, mais aussi le lundi. Et aussi le mardi. Vous me direz qu'il n'y a pas de culte le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ni le vendredi, le samedi. Mais quand même, le culte, c'est pas seulement ici. Le culte, c'est ma vie doit être un culte. La Bible dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Ce qui sera pas un culte raisonnable. Le culte, c'est tous les jours. Et ce sera l'accent que nous mettrons là-dessus. Quelques chapitres avant, dans le livre des Juges, Juges 21, verset 25, il nous est dit à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait roi ce qui lui semblait bon. Et le contraste, c'est vraiment saisissant parce que quelques années auparavant, au milieu du désert, lorsque le peuple traversait le désert, il y avait le culte qui était célébré, il y avait le tabernacle, il y avait le système de sacrifice, tout était mis en œuvre pour le culte. Et nous voilà pas que en terre promise, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En fait, il n'y avait plus un chef, un meneur, plus un Moïse, il n'y avait plus un Josué, mais Josué n'était plus là. Et pire, le Seigneur n'était plus là. Et d'ailleurs, le chapitre avant de 1 Samuel, chapitre 3, il nous est dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Quelques remarques, hein. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Vraiment, c'était la disette, c'était le désert. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le verset 3 nous dit aussi, de 1 Samuel 3, quoi, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Et quand j'ai lu ça, ça vous choque pas? Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. L'homme était l'arche. Il dormait dans le sanctuaire. Nous, on comprend qu'on puisse être dans le sanctuaire. Et nous l'avons chanté, je viens devant le trône. Nous pouvons entrer dans le sanctuaire parce que Christ, le roi s'est ouvert. Nous avons accès. Mais à cette époque-là, Samuel n'avait pas accès. Et Samuel aurait dû tomber raide mort. Et Dieu est un Dieu de grâce. Pourquoi il n'est pas mort? Eh bien, parce que il y a bien duré, quelqu'un d'autre. La gloire était bannie. La gloire, il n'y avait plus de gloire. La gloire de l'Éternel n'était plus là. Et puis 1 Samuel 2 aussi, pardon, nous parle des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens, des hommes pervers, ils ne connaissaient pas le point d'Éternel. Dans une version, il est dit des vauriens. Et le verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables de très grands péchés devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Donc, Dieu ne parlait plus. Dieu était absent. Dieu était triste. Et on voit aussi au verset 22 du chapitre 2, toujours, de 1 Samuel, le manque d'autorité. Le manque d'autorité d'Élie. Élie était très âgé lorsqu'il a appris comment ses fils agissaient vis-à-vis de Dieu, Israël. Il apprit aussi que ses fils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit,
« Pourquoi faites-vous de telles choses quand j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions ?»« Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. »
Je lis comme ça parce que je pense qu'Élie avait une petite voix comme ça. Il avait manqué d'autorité.
Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur?
Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Et nous par contre, nous n'aurions pas eu une petite voix, n'est-ce pas? Hein, frère? On aurait tapé le poing, on aurait crié après nos enfants. On aurait secoué nos enfants. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais Élie, non. Et j'ai envie de dire à Élie, c'est un peu tard pour redresser la branche. Élie, l'Éternel va couper cette branche d'ailleurs, cette branche rebelle qui produisait de mauvais fruits. Non, ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, le moissonne. Alors, quelques applications pour notre vie aujourd'hui, c'est que, bien aimé, c'est terrible. C'est terrible quand Dieu ne nous parle plus, que le Saint-Esprit est assisté et bâillonné. C'est terrible quand sa parole ne nous dit plus rien et nous laisse indifférents. Oui, c'est terrible quand on fait ce qui est mal, en toute bonne conscience. C'est ce qui se passe avec les fils d'Élie. C'est terrible quand le diable se frotte les mains, heureux d'avoir réussi son coup, encore une fois, parce que je lui ai laissé accès dans ma vie. C'est terrible de croire que puisque je suis sauvé, je n'ai plus d'efforts à faire, que mon salut est assuré, que j'ai atteint la terre promise, que voilà, tout est bon. Seulement, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et que si celle-ci n'est pas authentifiée par les œuvres que produisent cette foi, alors, cela veut dire que cette foi, elle est inexistante, elle est vaine, elle est fausse, et que devrait dire que je ne suis pas sauvé. Oui, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On peut avoir beaucoup de gens, enfin, je ne sais pas pour votre église, ici à Marolles, tout le monde est Seigneur, tout le monde est des chrétiens zélés. Mais dans mon église, par exemple, où je suis, eh bien, on peut avoir des gens qui sont là, mais qui n'ont pas cette relation avec le Seigneur, qui sont des religieux, qui, pas chez vous, hein, dans l'église où je suis à ce moment, hein, des gens qui sont des religieux, des gens qui font semblant, je ne sais pas pourquoi, j'allais dire qu'ils perdent leur temps, quoi, non, mais voilà, ils sont, depuis tout petit, ils sont à l'église, ça va continuer, mais non pas à l'église pour te parler de fruits. C'est terrible de faire des sacrifices de louange, de rendre culte à Dieu avec des mains sales. Nous avons chanté je lève mes mains vers le Saint, je lève mes mains. Et des mains sales, c'est terrible. Quoi. Mettez-vous à la place du Seigneur un moment et comprenez comment il peut être attristé, comment il peut avoir des larmes de voir ses enfants venir à lui, comme le faisaient les fils d'Élie. C'est terrible aussi de voir nos enfants, peut-être, que nous avons mis au monde, que Dieu nous a donné, que nos enfants quittaient le Seigneur, quittaient l'Église et allaient servir le monde, servir au fou, ou alors servir le diable du lundi au samedi, et le dimanche servir le Seigneur. Ils ont fait semblant de servir le Seigneur le dimanche. Qu'il n'en soit pas ainsi, bien aimé. C'est que je dois donner un bon exemple à mon fils. à mes enfants, de vous donner de bons exemples. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé, les fils d'Élie, pourquoi cela? La Bible dit au verset, chapitre 2, verset 12, qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Peut-être que c'est le choix de l'enfant, mais parfois, oui, nous sommes, en tant que parents, nous y sommes pour quelque chose. Et la question se pose, qu'avons-nous semé dans la vie de nos enfants? Avons-nous semé une vie exemplaire? Avons-nous veillé au cadre? Avons-nous exercé l'autorité comme il se devait? Avons-nous élevé le ton quand il le fallait? Avons-nous veillé à leur enseignement spirituel? Parfois, nous pouvons faire tout pour que les enfants puissent réussir le bac, pour réussir l'école, avoir un métier de même. Qu'en est-il de sa vie, de sa consécration au Seigneur? Dieu dit à Élie, chapitre 2, verset 29, « Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Oui, c'est terrible de mépriser les choses saintes en leur donnant peu de valeur. Voilà, terrible de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Donc, cette partie que j'avais appelée, je ne sais plus comment j'avais appelé, je ne sais pas, le silence de l'Éternel, quand Dieu ne parle plus, quand Dieu se tait, quand Dieu est bâillonné, et l'absence de l'Éternel, ou méconnaissance de l'Éternel. Le chapitre 4, verset 1, nous évenons, nous dit que la parole de l'Éternel s'adressa à tout Israël. On nous dit qu'Israël sortit à la rencontre des Philistins. Les Philistins étaient un peuple puissant, un peuple redoutable. Ils avaient su maîtriser le fer, ils avaient pu forger des armes de guerre. Et c'était redoutable. Et ces Philistins venaient briser la tranquillité d'Israël et les assujettir. Mais Israël se croyait fort. Israël se croyait invincible. Or, Juges 2, verset 10, nous dit toute cette génération, c'est-à-dire celle de Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. La transmission n'avait pas été faite correctement. Et Israël ne connaissait plus son histoire. Certains peut-être savaient, oui, on était en Égypte, oui, et puis Dieu nous a libérés, mais c'est tout. L'histoire de ses ancêtres, l'histoire de son Dieu. Alors, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Idolâtrie, alliance, mariage avec les Cananéens. Et cela était devenu normal. Personne n'était choqué parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais comme souvent, il y a un petit reste. Un reste qui est fidèle, qui tient bon avec le Seigneur. Et un reste comme Anne. Anne et son mari qui ont eu un fils qui s'appelle Samuel. Il y a eu un... Et comment s'appelle le mari?
Elkanah.
Qui c'est qui a dit Elkanah? Je vais te donner un petit cadeau. Voilà, que tu viendras prendre. Hein, c'est une petite carte. J'ai la réserve pour ceux qui répondent correctement. Voilà. Et la deuxième femme s'appelait
Féminine.
Enfin, pas encore. Elle était incroyable quand elle était petite. Quand on était à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, on faisait le ça remonte à 40 ans. Ah oui, 40 ans, quand j'étais jeune. Voilà, Pénina et Elkanah, Anne, chaque année, Elkanah vient à Silo pour offrir le sacrifice d'exiger la loi de Moïse. Alors, cette première défaite va éveiller les consciences. Et les anciens, les plus âgés vont se dire, mais on a raté quelque chose. L'arche. Mais l'arche, on n'a pas l'arche. L'arche de l'Alliance, elle n'est pas avec nous, elle n'est pas là. Mais voilà, mais c'est pour cela. Et qu'en vont-ils faire? ils vont faire venir l'arche. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un symbole qu'il faut. C'est la présence réelle de Dieu. L'arche était le symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux, mais Dieu n'était plus là. Parce que Ichabod, la gloire de Dieu, n'est plus là. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui? Pour nous, Église de Dieu aujourd'hui? Si dans l'Église, chacun faisait ce qui lui semblait bon, eh bien, ce serait le désordre, l'anarchie. Et l'autorité, c'est avant tout la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés à la méditer jour et nuit, à passer du temps. Il nous est, autre application, il nous est vital de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, comme avait fait le peuple. Ils avaient oublié leur histoire, ce que Dieu avait fait dans le passé. C'est lui qui est encore capable de le faire. Il t'a conduit, t'a mené jusque-là. Il continuera à te porter. Le passé, nous rappeler le passé pour vivre le présent. Oui, nous rappeler aussi que la présence de l'Éternel est vitale. L'intimité avec le Seigneur est vitale. Veillons donc à ce que sa gloire ne nous quitte jamais. Nous sommes tous appelés aussi à être ce temple où sa gloire habite. Vous vous rendez compte? La gloire de Dieu réside en toi et en moi. Quel privilège, quel challenge, quelle responsabilité. Parce que ce temple doit être clean, bien aimé. Clean, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire propre. Propre. Ce temple doit sentir bon. Ce temple doit être accueillant. Le roi de Ra, que le roi de Ra fasse son entrée, se sent à l'aise dans ta vie, dans ton cœur. Oui, la gloire de Dieu réside en moi. Tous les dimanches, nous pouvons venir ensemble et faire retentir des cris de joie, des cris, faire monter d'abondantes louanges, à faire trembler les murs. Mais si Ichabod, mais si la gloire de Dieu n'est pas au milieu de moi pendant la semaine, eh bien, et que je vienne ici, allez, ça ne marche pas. Et l'ennemi se rit de nous, se moque de nous. Puisse chacun de nous veiller à ça, à la gloire, à l'honneur de l'Éternel. Que je vois en toi la gloire de mon roi. Que le monde incrédule puisse voir, tiens, ce mec là, cette fille, pardon, ce gars, cette fille, elle a quelque chose. Et donner envie aux gens d'être comme vous. Ce monde incrédule, aveuglé, qu'il puisse voir un peu, rayonner un peu de sa gloire. Je ne dis pas toute la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu est tellement immense que on va. Mais peut-être même un petit peu, je dis au Seigneur, un petit peu de ta gloire, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ta gloire brillante autour de moi. Et que cette gloire fasse trembler mes adversaires. Ceux peut-être qui sont jaloux de moi, à ton travail, qui sont jaloux de toi, qui t'en veulent sans cause. Ces collègues de travail qui te cherchent à bête à chaque fois, qui puissent voir que tu es le fils du roi des rois, la fille du roi des rois, et qui sachent qu'ils ne voudront pas ta joie, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Voilà l'importance de marcher dans l'intimité de Dieu. Veillez. Alors, je vais conclure parce que l'heure arrive, mais veillez. Veillons à ce que nul ne se prive de cette gloire, de cette grâce de Dieu. Et que aucune racine, ça c'est Hébreux 12:15, aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons. Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, prions. Intercédons tous les jours pour nos enfants. Afin qu'ils soient que nous prenions des modèles et qu'ils suivent notre exemple. Thank you. si Dieu est silencieux ou absent dans notre, de no, dans notre quotidien, c'est qu'il y a un problème. Si l'Esprit Saint est attristé, je n'aurais pas envie de lire la parole. Je n'aurais pas envie d'aller, de venir ici le dimanche. Et la communauté, la vie d'Église me laissera indifférent. Donc revenons là où nous savons que la gloire de Dieu nous a quittés. Là où nous savons que l'Esprit Saint, nous avons attristé l'Esprit Saint. Revenons à lui de tout notre cœur. Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est celui qui nous pardonne, qui nous réconcilie. Et parfois, il est même utile d'aller voir un aîné, un frère, une sœur. Voilà, reste pas seul. Ne reste pas seul dans ton coin. Et ne fuis pas l'Église, c'est ce que t'attend l'ennemi. Mais viens, viens. C'est ici que tu vas te faire du bien avec les frères et les sœurs. Tu seras pas jugé. Nous sommes tous des chrétiens pardonnés. Et nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas encore. Nous sommes dans ce mot de sanctification. Nous ne sommes pas encore au ciel. Donc nous combattons tous. Et le dernier verset que, en guise de conclusion, je vais lire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne nous laissons pas, demeurons donc fermes, nous ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, vous pourriez bien, verset 7, Galates 5, 7, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Vous pourriez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous empêchez de venir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Que le Seigneur nous tienne ferme dans sa main. Et que nous soyons des modèles et des exemples pour la gloire de son nom, pour l'avancement de son Église ici à Marolles. Prions le Seigneur. Seigneur, nous n'avons que toi. Et que toi, dans le ciel, dans nos cœurs, dans l'Église, c'est toi que nous voulons servir. Nous avons fait un choix et nous voulons assumer ce choix. Tu connais les combats, les luttes, les labeurs. Mais merci parce que tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous rétablit et nous pardonne. Et donne-nous, Seigneur, à demeurer dans la victoire. C'en est assez que l'ennemi se moque de toi en nous pointant du doigt. Mais nous voulons, Seigneur, demeurer fermes et avancer pour la gloire de ton nom. Que ta gloire demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.